Voilà, c'est juste une petite remarque. Mais disons que c'est quelque chose qui, moi, m'a frappée quand je me suis penchée justement sur les écrits des Canadiens. C'est qu'eux mettent l'accent, mais vraiment de manière fort importante, sur le destinataire. Et ici, bon, évidemment, ça court de manière sous-jacente dans la communication, etc. Mais pas une fois, vous n'avez prononcé ce mot. Et je pense qu'il y a un vrai travail de représentation chez l'enfant ou l'étudiant qui écrit en école sur qui est son destinataire. Je dis toujours à mes étudiants, l'école est le seul endroit où on ne se préoccupe pas assez, ou pas du tout, du destinataire. Or, je pense que ce sont des études québécoises, mais dont je ne connais pas les références, mais c'est Claude Simard, je pense, qui en parle dans un de ses écrits, en disant que on remarque que les compétences des écrivains sont bien meilleures quand ils peuvent se représenter et qu'ils ont vraiment en tête le destinataire. Et je pense que c'est vraiment le grand absent de toutes les pratiques scolaires. Et c'est très difficile et on l'oublie très vite. Moi, je vois bien que dans les propositions que je fais à mes étudiants, très vite, j'oublie de leur dire « mais faites attention à qui vous l'écrivez, pour qui vous l'écrivez, etc. » Et de fait, quand je leur demande vraiment de choisir le destinataire, je vois une amélioration des écrits. Il y a vraiment un impact fort. Et voilà, c'est quelque chose auquel il faudra peut-être penser régulièrement.
Ben oui, vous avez raison, j'ai absolument pas employé ce mot aujourd'hui. Quand même, contrairement à ce que vous dites, je pense que dans les... Si je ne l'ai pas employé, c'est parce qu'il me semble qu'il fait partie de... Il fait quand même partie de l'aventure de la didactique des années 80-90. Il me semble qu'il est très très présent dans les ouvrages sur évaluer les écrits à l'école primaire. Il est derrière... La question des destinataires, elle est quand même fortement derrière la question des projets. Parce que quand on est en projet, on écrit bien pour quelqu'un. Donc je crois que c'est vraiment... J'ai préféré insister, parce qu'il me semble que... Par contre, ça, c'est vraiment l'absent. J'ai préféré insister sur la question du sujet, de celui qui écrit. Mais c'est lié, bien sûr, bien sûr.
Bien, merci d'abord, François, pour cette synthèse qui m'a permis à moi-même, qui ne suis pas spécialiste de didactique, d'avoir une vision panoramique surplombante de ce qui s'est fait depuis la fin du 19e siècle. Alors, j'avais deux, trois questions à te poser. C'est plutôt des précisions. Dans ton dernier schéma, celui qui présente de façon stylisée les trois sphères, normes, modèles, expression, création et communication. Dans le pôle normes et modèles, est-ce que tu intègres les repoussoirs ? Je dis ça parce que pour rejoindre la question de notre collègue, la question en effet du destinataire, alors ce terme de destinataire me gêne beaucoup, je pense que la figuration trop parfaite d'un destinataire peut tuer l'écriture. Il me semble aussi que chez les écrivains, on voit bien que le lecteur est un fantasme, que toutes les théories d'Umberto Eco et de tous les autres sur le lecteur idéal, etc., nous montrent que ce lecteur n'est pas forcément de chair, c'est un lecteur fantasmé. Donc cette question du destinataire qui nous renvoie à la vision de la pragmatique, etc., me gêne un petit peu en réalité. Voilà. Alors, il y avait aussi cette question, merci, cette question-là, des écrits fonctionnels et des écrits littéraires. C'est-à-dire que ces fameuses grilles qui ont permis de modéliser l'architecture des types de textes avaient l'air de fonctionner très bien pour la recette de cuisine, le compte-rendu, et sans doute ont été utiles. Mais alors, que s'est-il passé pour la littérature pendant toute cette période? Est-ce qu'il a fallu attendre Catherine Tauvron pour finalement avoir une didactique de l'écriture littéraire qui tienne compte de la singularité du texte littéraire. Cette question norme-modèle, du coup, est-ce que sur le schéma, on ne pourrait pas imaginer qu'il y ait des traits, parce que ton titre parlait de tension, est-ce qu'on ne pourrait pas relier par trois traits cette triangulaire, en quelque sorte, pour voir comment la question du sujet, puisque tu parles du sujet scripteur, comment cette question du sujet elle a à voir avec l'altérité? C'est-à-dire que comment penser le sujet aujourd'hui sans être dans la psychologie, sans être dans la conscientisation de tout, puisqu'on est passé quand même par Freud, Lacan, et qu'on n'est plus du tout dans l'humanisme du XVIe siècle. Donc qu'est-ce que c'est que le sujet aujourd'hui, que le sujet scripteur? Donc je voulais te poser cette question relative aussi à tous les travaux de Bakhtin sur le dialogisme, sur la polyphonie, qui ont à voir aussi avec la réécriture et qui pourtant n'ont pas été évoquées. Que pourrais-tu éventuellement en dire dans ton, par rapport à ta présentation? Alors j'avais aussi une autre question. Excuse-moi, je suis, mais finalement j'ai été très inspiré par ton exposé qui est c'est très heuristique. Dans les nouvelles approches, donc tu as listé une série de termes, motivés, fragmentés, analysés, explicités, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une place pour la question du systémique? C'est-à-dire, est-ce que ces modèles des années 90 ne partaient pas de deux idées? Détruire le fait que l'écriture soit un don, qui était quand même le grand topos de l'écriture romantique, l'inspiré des dieux, etc., quitte à retomber dans un positivisme techniciste. Mais est-ce qu'il n'y avait pas malgré tout ce projet assez idéal de montrer que l'écriture n'était pas seulement un don? Donc cette histoire de don, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis, est-ce que cette fragmentation dont tu parlais, elle n'est pas une conséquence du systémique? Cette cartographie de la Grieva, qui est une cartographie extraordinaire, Gilbert Turcot a œuvré, j'en ai parlé souvent avec lui, disait déjà, une fois qu'il l'avait établie, cette grille, de toute façon, nous amènera dans une impasse, il faudra qu'on en sorte, notamment du point de vue de la littérature. On ne pourra pas s'en sortir et de la singularité. Donc, est-ce que se fragmenter est une conséquence du systémique? Voilà la question aussi que je voulais te poser. Et puis, ma foi, je crois que c'était à peu près tout. J'ai fait le tour de toutes les questions que je voulais te poser. Ah oui, une dernière, excuse-moi. Est-ce que l'intention, c'est la préméditation? Parce que tu as parlé de l'improvisation, de la nécessité d'enseigner, si on le peut, l'improvisation. Comment fonctionne cette dialectique entre la contrainte et la liberté, le cadre et la marge? Est-ce qu'on peut articuler les deux? Est-ce qu'elles se stimulent ou sont en concurrence l'une l'autre? Puisque c'était une des tensions que tu signalais. Voilà, je te remercie. Pardon pour ces questions, sans doute trop nombreuses.
Ce que j'ai essayé de faire, c'est de tracer un tableau et de dire un peu où nous en sommes aujourd'hui, à l'heure qu'il est. J'entends bien ce que tu dis. Je suis complètement d'accord avec toi sur les rapports entre fragmentation et esprit de système. Ça, je crois que, bien entendu. En même temps, l'esprit de système, une description systémique du fonctionnement de l'écriture, c'était quand même bien utile, là aussi, à un moment donné. Donc, Turcot disait que ça allait nous conduire dans un mur, mais en même temps, il fallait y aller. Donc voilà, ça fait partie, des mouvements normaux de la pensée. Que te répondre encore? Je crois que tu as posé des bonnes questions qui n'ont pas de réponse et sur lesquelles nous devons travailler. C'est évident que ces dispositifs étaient beaucoup plus performants quand il s'agissait de décrire des formes relativement stéréotypées et figées comme les écrits les plus fonctionnels, les écrits administratifs, les écrits prescriptifs, etc. C'était beaucoup plus facile que de travailler sur des écrits littéraires. Et travaillant sur des écrits littéraires, ces grilles permettaient de rendre compte d'une poésie, par exemple, très formatée, qui était construite sur des répétitions ou sur des fonctionnements extrêmement transparents. Elle permettait de rendre compte de genres plus standardisés que d'autres. Ça marchait bien tant qu'on était sur le conte. Après, ça devient beaucoup plus difficile si on doit s'intéresser au roman de mœurs parce qu'à ce moment-là, on est confronté à des calibrages beaucoup plus complexes. Donc, bien entendu, les remarques que tu pointes sont pertinentes. Je n'ai rien à ajouter. Les trois pôles que j'ai indiqués, tu dis, est-ce qu'on pourrait les relier? Bien sûr. Ce que je voulais faire là, c'était rappeler simplement, parce qu'il me semble que ce sont des... Un truc que, en général, quand j'essaye en formation de parler d'écriture avec des stagiaires, je rappelle toujours que il y a eu la rédaction. Je le faisais avant que la rédaction revienne. Il y a eu la rédaction, puis après il y a eu 68, et il y a eu l'expression écrite. Et puis après l'expression écrite, il y a eu Eva et il y a eu la production d'écrits. Et rédaction renvoie à un exercice scolaire avec une dimension répétitive, etc. Expression écrite renvoie au sujet, production d'écrits renvoie à l'outillage. À chaque fois, on a des modèles qui se répondent, qui se font écho et qui se contrarient. Je pense qu'il serait regrettable aujourd'hui de continuer dans ces jeux de balancier. Ce qu'il faudrait arriver à inventer aujourd'hui, c'est des dispositifs qui permettent de circuler d'un espace à l'autre. Alors, Quand votre échange concernant la question du destinataire est effectivement très symptomatique. C'est vrai que le mot destinataire renvoie de façon assez transparente au pôle communication, mais qu'il ne rend pas compte du pôle normatif, et il ne rend pas non plus compte du pôle expression de soi, découverte de soi dans l'écriture, etc. Donc, à chaque fois qu'on met l'accent sur l'un de ces pôles au détriment des autres, on est dans une des composantes de l'écriture. Alors, ce qui est regrettable, c'est que l'enseignement français soit traversé de vagues qui sont des vagues exclusives, et qu'à un moment, à un moment, il fallait s'inscrire en faux contre le mouvement précédent, contre la vague précédente, pour arriver à imposer. Moi, la question du destinataire, par exemple, c'est vrai que je débutais dans la formation à cette époque-là, et ça a été un petit peu comme une illumination. C'est-à-dire se dire, mais c'est vrai, quand on écrit pour quelqu'un. Et quand j'écris, quand je demande à mes élèves de collège d'écrire, je leur demande de faire un texte pour personne. Même pas pour moi. Parce qu'ils savent bien que je m'en fous. Ce qu'ils ont à raconter, ça ne m'intéresse pas. C'est autre chose. Donc, à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, il me semble que cette idée d'aller contre des activités qui étaient purement rituelles et purement orientées vers l'obéissance à des modèles, à des normes, il fallait trois parties, il fallait des choses comme ça, il fallait répondre à un certain nombre de... Et à partir du moment où on dit, mais attends, tu parles à quelqu'un, règle numéro un, tu parles à quelqu'un, il me semble que c'est extrêmement bénéfique parce que ça fait bouger les choses. Mais la contrepartie, c'est qu'effectivement, en tout cas, tout un aspect de l'écriture ne concerne pas le « je parle à quelqu'un », mais concerne le « je me parle à moi-même », par exemple, ou « je ne parle à personne », ou « je m'inscris ». Et toute cette composante-là, comment lui faire sa place donc, et ça vaut pour la littérature, mais ça ne vaut pas que pour la littérature, ça vaut aussi pour la petite fille qui écrit dans un coin de son cahier « papa déteste maman », par exemple. Et là, elle écrit à personne, elle note à un moment quelque chose qu'elle a envie de sortir d'elle-même, et surtout, elle veut que personne ne voit. Donc, bien sûr, on est aux antipodes, mais il me semble que travailler l'enseignement de l'écriture aujourd'hui d'une manière pertinente, ce serait essayer de tenir compte de ces pôles, soit en proposant des activités qui prennent en compte les trois pôles simultanément, soit en alternant. C'est-à-dire, moi, je n'ai rien contre le fait qu'on ait un temps d'écriture hyper normé où on essaye d'écrire un conte en cinq parties. Moi, je n'ai rien contre ce temps-là, à condition qu'à côté... Il y a aussi pour les élèves, la possibilité de comprendre qu'écrire, ce n'est pas seulement, c'est quelquefois entrer dans des cadres, un compte-rendu de l'agence France Presse, c'est vraiment, il y a des normes extrêmement précises. Donc, très bien. Mais il y a quantité de moments où l'écriture sert à tout à fait autre chose. Et construire un rapport à l'écriture quand on a 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, c'est essayer de balayer tous ces aspects de l'écriture, qu'on puisse au moins les rencontrer. Donc, simultanément, successivement, je ne sais pas, c'est un peu là-dessus qu'il faut travailler, avec les réponses. Enfin, c'est un petit peu là-dessus que moi, j'avais envie de travailler en lançant une recherche sur l'écriture partant de l'INRP. On avait fait beaucoup de choses sur l'écriture, mais il me semble que il y a justement à essayer de trouver des points d'ancrage, de coordination, de complémentarité entre ces connaissances qu'on a désormais. Sur préméditation et intention, je comprends mal ce que tu veux dire par là. Sur dialogisme et polyphonie, je suis complètement là, j'entends complètement là-dessus, c'est-à-dire que la question du sujet, c'est peut-être aussi là-dessus que je m'oppose un petit peu, par exemple, à ce que Catherine Tovron dit. Que, moi, j'ai beaucoup admiré Catherine Tovron sur la lecture. J'étais plus réservé concernant son apport sur l'écriture, qui m'intéresse beaucoup, mais qui, par moments, me semble obéir à des règles qui ne tiennent pas compte de cette anthropologie de l'écriture. C'est-à-dire que, par exemple, on vous montrera sans doute mercredi des exemples néo-calédoniens. Moi, je pense qu'un élève à qui on propose d'écrire, il est assez normal que son écrit soit traversé par les écrits des autres. Qu'il s'agisse d'une copie de choses qui nous paraissent à nous scandaleuses sur le plan de l'imaginaire. C'est-à-dire que, effectivement, c'est vrai que ça n'est pas... Un élève qui écrit ce qu'il a envie n'imagine pas obligatoirement. Il va piquer des... Il dessine des Pokémon, il raconte une histoire de Superman, il reproduit un épisode d'une série télé qu'il vient de voir la veille. Mais attendez, moi, quand j'écris, je pompe Dominique Bucheton, je fais pareil. Vous voyez, je veux dire, on ne peut pas... Dans la revendication de Catherine, dans son travail, il y a une revendication de l'originalité, de la créativité littéraire, etc., qui est extrêmement exigeante et qui, à mon avis, est un petit peu coupée de ce qu'est véritablement une appropriation de l'écrit. Un élève qui apprend à écrire, il est normal qu'il soit dans le plagiat, dans la soumission à des stéréotypes. Ça fait partie de la règle du jeu. Et donc là, pour le coup, la dimension bakhtinienne, je suis bien entendu. Mais ce serait justement, à mon avis, une erreur que de vouloir absolument que l'élève accède à la singularité. D'abord, la singularité n'existe pas, la preuve par Bakhtine. Mais à plus forte raison, quand on est petit, plus on est petit, moins elle existe. Et donc, du coup, l'élève qui doit écrire et qui recopie une blague qui le fait beaucoup rire, ben, même si moi, elle ne me fait pas rire et si je la trouve parfaitement débile, sa blague, je suis obligé de me dire qu'il s'est quand même passé quelque chose et qu'il y a quelque chose qui est un début d'un mouvement. Et donc, si on reprend cette idée que l'écriture est un trajet, une progression, une conquête lente, un élève de CE1 qui tient un carnet de blagues, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on doit prendre en compte. Alors après, bon, ça ouvre les portes à de toutes les choses les plus... Je veux dire, c'est vrai qu'il y a des collègues qui vont me dire bah « Oui, mais est-ce que je dois accepter les carnets de blagues dans la classe? Et les blagues de cul, qu'est-ce que j'en fais ?» etc. Bon, et les injures à la maîtresse, hein, qu'est-ce que j'en fais? Oui, ça pose tout un tas d'autres problèmes, mais qu'il faut après traiter séparément. Mais... Voilà, donc là-dessus, par contre, intention, préméditation, c'est vrai, ça m'échappe un peu.
D'abord, je te remercie pour tes réponses, hein, qui ont été longues et précises, et je partage tous les éléments que tu mets en place, surtout, je crois que ça me paraît important en cette époque, parfois de retour du dogmatisme, de souplesse. De souplesse et d'élargissement de la gamme. On est bien là pour élargir la gamme de l'écriture et des possibilités d'écrire. Non, je pensais simplement à l'idée que, au fond, tout projet n'est pas forcément prémédité, et sans doute que si le projet était totalement prémédité, l'élève serait en quelque sorte empêché dans l'écriture et dans le tremplin que représente la mise en mots. Mais est-ce que il peut y avoir une part plus ou moins programmatique, mais en même temps aussi laissant la liberté au scripteur? C'est-à-dire qu'il puisse y avoir l'invention d'une intention, non pas simplement la préméditation, c'est-à-dire, au fond, la fameuse planification, je veux écrire ça et j'exécute ce que je veux écrire. Finalement, ce qui nous renvoie au processus rédactionnel, eux-mêmes, rhabillant la grand-mère de l'héritage classique, inventio dispositio elocutio, au fond. Bon. Mais plutôt l'invention de l'intention. Comment arriver à inventer des intentions plutôt que les avoir préalablement au travail d'exécution, ce qui semble parfois difficile avec des enfants qui sont confrontés à la page blanche. Voilà, c'était ça l'idée, hein, l'opposition que je voulais faire.
Tu poses la question, mais il y a une réponse dans la question. Moi, oui, je suis bien entendu. Tu as indiqué de façon valorisante ce qui te paraissait être la piste à suivre. Je crois qu'effectivement, il faut créer des circonstances, des dispositifs qui permettent l'évolution des projets, et donc la construction de l'intention, bien sûr. Mais là on est complètement devant des choses, d'une part, je pense que probablement très peu d'écrivains écrivent sans plan, et probablement que très peu d'écrivains respectent les plans qui se sont donnés au départ. Donc cette idée de partir sur un canevas, et pour l'enseignant et pour l'élève, et puis ensuite de laisser naître les choses, et probablement une idée extrêmement féconde. Mais ça veut dire vraiment, justement, s'inscrire dans le temps, accepter une certaine forme de mobilité. Enfin, oui, bien sûr. Moi, j'étais prêt à l'élargir encore à la notion de sens. Être dans quelque chose qui a du sens pour moi. Alors après, ce sens, il peut être très très matériel. Si je fais une recette de cuisine, le sens, c'est qu'effectivement la recette soit utilisable et qu'on puisse réussir. Si je suis en train d'écrire un conte, il faut que des lecteurs puissent comprendre l'histoire et la trouver intéressante. Si je suis en train de tenir un journal intime, il faut que ça ne soit pas une mascarade et il faut que ça soit vraiment voilà. Donc je pense que c'est plutôt de ce côté-là, du côté d'être dans des dynamiques qui font sens, voilà.